Chapitre 8. Couloir. Une légende, très ancienne semble-t-il, veut qu'une prophétesse ou un oracle eût résidé à une époque sur l'île d'Aslevial. Selon certaines versions, il s'agit d'une femme seule qui aurait vécu plusieurs générations, mais sans jamais perdre sa jeunesse, l'œil toujours noir et la chevelure aile de corbeau. D'autres évoquent plusieurs devineresses regroupées en une maison maternelle, dont chaque grande mère transmettait sa charge à sa fille aînée, si bien que de nombreuses voyantes se seraient succédées sur l'île. Tous les récits affirment que chacune se départissait de son rôle de grande mère de son vivant et qu'elle poursuivait son existence bien au-delà. Il ne demeure aucun témoin capable d'attester la véracité de cette histoire. On dit que la prophétesse habitait à l'intérieur du glacier et en sortait seulement pour accepter les offrandes que les visiteurs apportaient à Glacefeu. Si l'un d'eux se présentait avec des animaux à sacrifier, elle les immolait elle-même et jetait en l'air leurs entrailles qui retombaient fumantes sur la glace. Elle lisait alors l'avenir du pèlerin dans les enroulements des intestins, puis, au nom du dragon, s'appropriait la carcasse. Niel, recueil de contes outriliens. La porte était quasiment invisible, et le fou l'avait déjà dépassée quand je la détectais. J'arrêtai mon compagnon d'une tape sur l'épaule. L'avait-on façonné à partir d'un bloc de glace d'un seul tenant, ou bien le matériau d'origine avait-il disparu sous une épaisse couche de givre? Je l'ignorais. Les gonds saillaient sous forme de vagues bosses dans le mur, et je ne voyais ni poignée, ni serrure. Perplexe, je remarquais une étroite fente qui perçait le ventail à mi-hauteur. Je me penchais pour y appliquer l'œil et restais saisi en voyant un homme en haillons, couvert de meurtrissures, pelotonné au fond d'une cellule. Il regardait dans ma direction, silencieux, et le visage inexpressif. Je reculais en poussant un cri. « Qu'as-tu ? » chuchota le fou avant de prendre ma place. Il demeura accroupi devant la porte, l'horreur peinte sur les traits, et déclara enfin « Il faut trouver un moyen de les libérer. » Je secouai la tête avec véhémence avant de recouvrer l'usage de la parole. « Non, fou, fais-moi confiance, je t'en prie. Ils sont forgisés. Il peut te paraître inhumain de les laisser enfermer, mais les faire sortir serait non seulement cruel, mais dangereux. Ils s'attaqueraient à nous pour s'emparer de nos manteaux ou pour se distraire. Nous ne pouvons pas courir ce risque. » Il me dévisagea, l'air de ne pas en croire ses oreilles. Puis, il dit à mi-voix. « Ah, tu ne les as pas tous vus, n'est-ce pas ? Crible se trouve parmi eux, Est aussi ?» Je n'avais aucune envie de regarder, mais il le fallait. Le cœur battant la chamade, la respiration haletante, je me rapprochais de la fente. Le même éclat bleuté qui baignait les couloirs éclairait faiblement l'intérieur de la cellule. Mes yeux s'accommodèrent à la pénombre et je distinguai le cachot entier. On l'avait excavé dans la masse du glacier et des déchets en jonchaient le sol. 5 forgisés occupaient la pièce nue. 4 d'entre eux avaient pris position dans des angles afin de se défendre, le dos au mur. Est, blessé, gisait par terre au milieu. À l'évidence, aucun des autres n'osait se risquer à l'attaquer de peur d'une agression par derrière. Il y avait 3 outriliens inconnus, décharnés, couverts de cicatrices et vêtus de loques. Quant à Crible et Est, leurs ravisseurs les avaient dépouillés de leurs épais manteaux de fourrure, mais ils restaient tout de même mieux lotis que leurs compagnons de détention, car ils avaient gardé leurs bottes. Je tendis frénétiquement mon vif vers eux, avec le désir fervent de capter un sentiment. Mais en vain. Accroupis, ils s'observaient avec une animosité bestiale, moins qu'animaux. On avait tranché tous les liens qui les rattachaient au monde et à la société. Je m'assis pesamment sur le sol glacé, submergé par la peine et le dégoût. D'atroces images que je croyais disparues depuis longtemps m'assaillaient de leurs griffes lépreuses. Je ne crois pas que le fou pût comprendre l'abîme d'horreur qui béait en moi. Il ne sentait pas comme moi le néant qui émanait d'eux.
« Ne peut-on rien faire pour eux ? »
demanda-t-il à voix basse. Un sourire s'épanouit comme un chancre sur mes lèvres. Je serrais les dents en refoulant les émotions qui menaçaient de me terrasser. Je refusais de me pencher excessivement sur sa question. Je l'avais déjà étudié sous tous les angles, bien des années plus tôt, et j'en savais les conclusions. À quoi bon me tourmenter à ressasser une leçon que je connaissais par cœur? Je m'exprimais sans détour. Je pourrais les tuer, enfin, peut-être. Ils sont quatre qui tiennent encore debout, et même si trois d'entre eux paraissent affaiblis par la faim, j'ai vu des forgisés s'unir pour combattre ensemble, du moins jusqu'au moment de partager le butin. J'ignore si j'arriverai à les éliminer tous avant de crouler sous le nombre. Crible sait se battre, et il est encore en bonne santé. Mais est-ce lui ? Il avait pris un ton suppliant. J'anéantis ses illusions. Fou. Ces hommes n'existent plus. Leur enveloppe demeure avec l'expérience acquise au cours de leur vie, mais rien d'autre. Ils n'ont plus de sentiments pour rien, ni personne. Ils ne se préoccupent plus que de satisfaire leurs appétits physiques. Crible, laisserait-il Est par terre blessé sans défense? Non, ce n'est plus lui.
Mais on ne peut pas les laisser ainsi,
s'exclama-t-il dans un chuchotement empreint d'angoisse. Je soupirai. Si nous ouvrons cette porte, je devrais les tuer. Ils m'y contraindront, sauf si je me laisse massacrer.
Alors, nous n'avons pas le choix?
J'eus un sourire amer. Il y a toujours des solutions, mais parfois, aucune de satisfaisante. Ou je les tue, ou ils nous tuent, ou bien nous passons notre chemin. Le fou resta un long moment immobile, en silence, puis il se détourna de la porte de la cellule et s'en alla à pas lents. Je le suivis. Les couloirs de glace laissèrent voir des signes de passage plus fréquents. Le sol apparaissait sale et piétiné, les parois griffées. Nous passâmes devant d'autres cachots identiques au premier. Je jetai un coup d'œil dans chacun d'eux, malade d'horreur, mais nous n'échangeâmes pas un mot sur leurs occupants. Le spectacle d'une femme et d'une enfant, chacune dans une cellule, me déchira particulièrement le cœur. Le sol de ces geôles était couvert de paille et un grabat gisait dans un angle. Manifestement, on tenait à maintenir ces prisonnières en vie, sort qui me paraissait plus cruel que celui de Crible, Est et leurs compagnons. Ils ne bénéficieraient pas d'une mort rapide, mais le froid sapait l'organisme aussi implacablement que la faim, et leur souffrance ne durerait pas. À en juger par la longueur de la chevelure hirsute et des ongles sales de la femme, il y avait longtemps qu'elle croupissait dans son cachot. Emmitouflée dans une pelisse d'ours crasseuse, elle se tenait accroupie dans un coin, face au mur. Dans la cellule voisine, une petite fille de 6 ou 7 ans grignotait les croûtes qu'elle s'arrachait des chevilles. Son regard croisa brièvement le mien par la fente de la porte. Je n'y lus que de la méfiance. Nous finîmes par laisser les cachots derrière nous. Le couloir s'élargit et se piqueta de globes lumineux à intervalles plus réduits. Plus que taillé au pic, il paraissait désormais sculpté dans la glace, et les parois, qui se rejoignaient en voûte au-dessus de nous, s'ornaient d'éléments décoratifs gelés. Sur le sol propre, du sable assurait l'adhérence du pied. Cette partie du dédale me semblait plus ancienne, comme conçue pour abriter une plus grande population, mais nous ne voyons toujours pas âme qui vive. Nous arrivâmes à un embranchement triple, tandis que le passage principal se poursuivait devant nous, à gauche, un escalier aux marches basses descendait en sinuant, et à droite, un autre montait en pente raide. Tous deux présentaient un aspect archaïque et usé qui contrastait avec le chemin, manifestement plus récent, que nous suivions jusque-là. Le fou et moi nous arrêtâmes, puis échangeâmes un regard. De l'ouverture de gauche, je captais comme un chuintement faible, qui allait et venait lentement mais avec régularité. Je mis ma main en cornet pour mieux l'entendre et peu après le fou chuchota.
On dirait le souffle d'une créature gigantesque.
Les narines évasées, j'inspirais longuement. L'odeur que je perçus me permit d'identifier le bruit aussitôt et m'emplit d'espoir. Non, ce sont les vagues, la mer. Ce passage mène à une grève. Allons-y. Le visage du fou s'illumina, comme celui d'un condamné qui voit sa peine soudain commuée.
Oui,
s'exclama-t-il avec ferveur, et il s'engagea vivement dans les marches larges et profondes. Je lui emboîtai le pas, le saisis par l'épaule et l'obligeai à se déplacer vers l'intérieur de la courbe de l'escalier.
« Longe le mur, lui dis-je à mi-voix. Si nous entendons quelqu'un monter, ça nous laissera un bref instant où nous aurons l'avantage. »
J'avais dégainé son poignard, seule arme dont nous disposions. La fatigue nous tenailla déjà, et nous n'avions aucune notion du temps que nous avions passé à explorer le labyrinthe de glace. Les degrés bas, dont la hauteur irrégulière ajoutait à notre épuisement, portaient des entailles profondes, comme si l'on y avait souvent traîné des objets lourds. Plus nous descendions, plus l'odeur de la mer devenait forte et l'air humide. Les marches se firent aussi plus glissantes, et bientôt nous dûmes les négocier avec prudence, car elles étaient couvertes d'une pellicule d'eau. On y avait jeté du sable, mais inégalement réparti. Il avait laissé des bosses de glace sur lesquelles le pied dérapait de façon imprévisible. Nous nous vîmes donc forcés de ralentir. Peu après, les murs se couvrirent d'une fine nappe d'eau qui s'écoulait lentement et des gouttes commencèrent à tomber du plafond. La laine saline de la mer s'accentuait, mais l'étrange éclat bleu qui nous baignait ne variait pas. Enfin, nous parvînmes à la dernière marche, criblée de trous, et constatâmes la futilité de nos efforts. À la glace succédait une sombre étendue de roches érodées qui donnait elle-même sur une plage de sable noir. Plusieurs piquets métalliques en pointaient, comme si de petites embarcations s'y amarraient parfois. Les vagues qui la léchaient en bruissant gagnaient peu à peu du terrain. Et au-dessus de nous, à peine visible à la lueur bleue du dernier globe, s'étendait une haute voûte de glace luisante. Si nous disposions d'une barque et que la marée descende, je tenterais l'aventure, dis-je.
Si,
répéta le fou avec un petit rire narquois. Interloqué, je me tournai vers lui. Il avait une mine épouvantable, qu'il ne devait pas seulement à l'éclairage. Il prit son paquetage pendu à mon épaule, s'assit lourdement sur les marches mouillées et serra un moment son sac contre lui, comme un enfant une poupée bien aimée. Puis il l'ouvrit, en fouilla le fond et en sortit son flacon d'eau-de-vie. Il le déboucha et me le tendit. Je le soupesai, puis en bus un petit quart. Je reconnus l'alcool d'abricot qu'il avait apporté à la chaumine où Heure et moi vivions autrefois. J'avalai la chaleur d'un jour d'été, puis soufflai, la bouche ouverte, pour savourer encore ce parfum fruité d'amitié, tout en lui rendant la flasque. Il la saisit et me l'échangea contre un quignon de pain noir qui prenait à peine la moitié de ma paume. Je m'assis à côté du fou et mangeai lentement ma ration. Je la découvris fourrée de raisins secs et de noix. Compacte, sucrée mais réduite, elle aviva la faim à laquelle je m'étais efforcé de ne pas prêter attention jusque-là. Nous nous restaurâmes lentement en silence, puis, quand j'eus fini de lécher les miettes collées à ma main, je me tournai vers mon compagnon. Nous essayons l'escalier qui monte.
Il ne nous conduira pas à l'extérieur, répondit-il doucement. Songe à cette grève et aux légendes que nous ont racontées les Outriliens. C'est ici qu'ils débarquaient, au débouché du passage sous le glacier pour voir le dragon. Ces marches doivent mener à Glacefeu, ou sinon.
Peut-être au dehors, répliquai-je avec entêtement. Il faut les emprunter pour en être sûr. Qui sait si le dragon ne se trouve pas au bout du couloir central? Vu sa largeur, ce serait logique. Il secoua la tête.
Non, le dragon gît sans doute au-dessus de nous, si jadis il était visible de la surface. L'escalier aboutit à lui, non à l'extérieur.
Il s'exprimait d'un ton catégorique. Il appuya sa tête contre la paroi de glace.
Je ne sortirai jamais d'ici. Je le sais, depuis toujours.
Avec un effort, je me redressai. J'avais le fond du pantalon trempé. Tant pis. Allons, debout, dis-je au fou.
À quoi bon?
« Debout !» Comme il ne réagissait pas, je le saisis par le col et le soulevai. Il ne résista pas et se borna à m'adresser un regard affligé. « Si nous devons mourir ici, sous la glace d'Aslevial, après tout le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis des années, les routes et les voies de traverse que nous avons empruntées, je veux voir de près ce fichu dragon qui nous a entraînés dans cette aventure, et tu m'accompagnes. » Qu'y a-t-il de plus fatigant à gravir qu'un escalier aux marches trop basses?
Un escalier aux marches trop basses et glissantes, peut-être.
Nous le montâmes néanmoins, et comme lors de la descente, demeurâmes près de la paroi intérieure, à l'affût du plus petit bruit indiquant la venue de quelqu'un en sens inverse. Nous entendîmes seulement décroître derrière nous le bruissement des vagues et les infimes explosions des gouttes qui tombaient du plafond. Enfin, Nous atteignîmes l'intersection et nous arrêtâmes, l'oreille tendue. Mais le silence resta absolu. J'étais épuisé. Depuis longtemps, j'en avais la conviction, nous avions passé l'heure où nous aurions dû prendre une nuit de repos bien méritée. J'avais l'impression d'avoir l'intérieur du crâne tapissé de feutres et rempli de mouches bourdonnantes. L'état du fou paraissait encore pire. Nous franchîmes l'embranchement et nous engageâmes dans l'escalier. Mon compagnon me suivit lentement dans les degrés étroits qui montaient en spirale. Dès que la courbure du mur nous cacha du couloir central, je l'arrêtai. « Fou, avale ce qui reste d'eau de vie. Ça te réchauffera et te rendra peut-être un peu de courage. En tout cas, ça te fera plus de bien au fond de l'estomac que dans ton flacon. »«
Puis-je m'asseoir ? »
demanda-t-il. Je m'endurcis le cœur. « Non, je risque de ne pas avoir la force de t'obliger à te remettre en route. » Mais il s'était déjà laissé glisser au sol. Il ressortit la flasque, l'ouvrit et me l'attendit. Je ne voulus pas discuter. J'en bus une goutte, puis dis d'un ton sans réplique « Termine maintenant ». Il s'exécuta en une seule longue lampée. Il mit un temps interminable à reboucher le récipient vide et le ranger.
« C'est dur, »
fit-il, sans paraître s'adresser à moi.
« Je me trouve trop près de la fin. J'ai eu des visions de ce qui nous arrive, mais toujours floues, imprécises. Je sais seulement que je dois continuer d'avancer et que chaque pas me rapproche de ma mort. »
Il me regarda dans les yeux et déclara sans honte
« Je suis terrifié. »
Je souris. « Te voici à égalité avec les autres hommes. Viens, allons voir ce dragon. » Tu as parcouru une si longue route pour le sauver.
À quoi bon? Pour lui avouer mon échec?
Pourquoi pas? Qu'il sache au moins que nous avons fait notre possible. Ce fut au tour du fou de sourire.
Il se moquera. Les dragons n'ont que faire des bonnes intentions et des efforts inaboutis. Il n'aura que mépris pour nous, pour autant qu'il remarque notre présence.
Eh bien, ça ne nous changera pas beaucoup. Alors nous éclatâmes de rire, sans nous esclaffer, mais à la façon de deux amis qui se savent, en train de vivre peut-être la dernière occasion de partager une plaisanterie. Nous n'étions pas ivres, du moins, pas d'eau-de-vie. Si le fou avait raison, notre existence touchait à sa fin, et je crois que, lorsque cela se produit et qu'on en prend conscience, on tâche de dénicher et de savourer les plus petites bribes de plaisir. Nous reprîmes notre ascension. L'escalier suivait une spirale si serrée que je me demandais quel démon l'avait taillée. S'agissait-il d'une particularité naturelle qu'on avait utilisée en lui donnant la forme de degré ou bien de la réalisation d'une imagination à la fantaisie débridée? Nous montions toujours. À une époque, des bas-reliefs de glace avaient décoré les murs, mais on les avait défigurés, sans doute volontairement, et il n'en restait plus qu'un fragment de jambe ici, un point là, et en une occasion, des lèvres et un menton de femme. Je claudiquais. Une botte à un pied, une chaussette encroûtée de glace à l'autre, et cette démarche irrégulière m'excédait de plus en plus. Quand nous nous arrêtâmes pour nous reposer, je laissai le fou s'asseoir. Il s'adossa à la paroi, et je crus qu'il s'assoupissait, mais quand je vis des larmes glisser lentement sur ses joues, je le secouai. Pleurer ne sera rien. « Debout, nous repartons. » La douceur de ma voix contredisait la dureté de mes paroles. Il hocha la tête, se releva péniblement et nous reprîmes notre ascension. Comme un cauchemar sans fin, les marches en colimaçon se succédaient toujours. Les globes pâles ne pouvaient éclairer tous les recoins de l'escalier tournant, où chaque nuance de bleu et de blanc s'exprimait tour à tour. Nous nous déplacions dans un univers d'une beauté froide et harassante. Notre allure se ralentit. Nous nous reposâmes, puis poursuivîmes notre montée. Elle ne pouvait pas se continuer indéfiniment. Assurément, nous allions atteindre la surface. Alors, nous débouchâmes sur une galerie horizontale creusée dans la glace, et sur le dragon. Malgré la distorsion et l'aspect brumeux que lui donnait l'épaisse cloison de glace qui nous séparait de lui, Glacefeu offrait une image à couper le souffle. Nous suivîmes lentement le couloir parallèlement à lui. Long comme deux navires bout à bout, il avait les ailes repliées sur les flancs et la queue rabattue autour des pattes. Sa tête se détournait de nous à l'extrémité de son cou sinueux. Nous l'observions intimidé et plein de révérence. Le cœur douloureux du fou battait dans ses yeux. Quant à moi, l'immense perception de la vie du dragon menaçait de submerger mon vif. Jamais je n'avais approché un être vivant aux proportions aussi gigantesques. Soudain, nous découvrîmes un tunnel grossièrement taillé qui s'enfonçait dans la glace en direction du poitrail de la créature. Je me penchai pour en scruter l'intérieur. Il se perdait dans l'obscurité du dragon noir. Je respirai profondément. « Prête-moi ta lanterne des anciens, » dis-je au fou.
« Tu comptes pénétrer là-dedans ?»
J'acquiesçai de la tête, incapable d'expliquer pourquoi je m'en sentais le devoir.
« Alors je t'accompagne. »
« Il n'y a pas assez de place. Reste ici, repose-toi. Je reviendrai te dire ce que j'aurai trouvé. » Tiraillé entre la fatigue et la curiosité, il finit par poser son sac par terre et l'ouvrit. Il me tendit le coffret lumineux.
« J'ai encore deux morceaux de pain. Veux-tu que nous les partagions maintenant ?»«
Restaure-toi. Je prendrai ma part à mon retour. » À la seule idée de manger, je m'étais mis à saliver. Je songeais soudain à Lourd. Avait-il artisé humbre et devoir, ou bien attendait-il toujours, accablé, que nous reparaissions? Était-il demeuré en sécurité sur le traîneau, ou bien nous avait-il suivis dans l'avalanche? Je chassais ces interrogations futiles de mon esprit. Le fou me remit la petite boîte. Je l'ouvris, et elle répandit son étrange lueur verte.
« Ne tarde pas trop, »
fit-il, comme je m'introduisais dans l'étroite galerie.
J'ai hâte d'apprendre ce que tu auras découvert.
Incapable de me tenir debout dans le tunnel, je m'y enfonçai à quatre pattes en tenant le coffret devant moi. L'éclairage bleuté du couloir s'estompa derrière moi et je progressais bientôt dans une luminosité vert pâle qui éveillait des reflets inquiétants dans la glace. L'odeur du dragon se fit de plus en plus forte, au point que je finis par avoir l'impression de la sentir par mes papilles autant que par mon odorat. Elle me rappelait la puanteur des serpents à rayures que, gamin curieux, je capturais pour les examiner. Plus j'avançais, plus le boyau se rétrécissait, comme si ceux qui l'avaient taillé avaient désiré parvenir au dragon avec tant d'ardeur qu'ils n'avaient pas voulu se donner le mal de lui conserver un diamètre uniforme. Il s'achevait par une muraille d'écailles noires et luisantes, dont ma main ouverte recouvrait à peine la plus petite. Devant elle, par terre, des outils s'alignaient, soigneusement rangés sur une bande de cuir, poinçons, maillets, forêts et pics de divers modèles. Deux instruments au fer brisé ou émoussé avaient été laissés de côté. J'approchai la lanterne du dragon et ma gorge se noua lorsque je vis mes soupçons confirmés. On avait creusé cette galerie jusqu'au flanc de la bête pour tenter d'atteindre son cœur. Son armure naturelle avait déjoué les attaques, semblait-il. On y voyait des éraflures, mais apparemment, rien n'avait réussi à pénétrer la chair. Une sorte de coin métallique restait en place, enfoncé sous les écailles noires, pour les soulever et ménager un point vulnérable. De plus près, j'observais sous les plaques écartées une seconde couche protectrice, couleur crème, au chevauchement perpendiculaire à ceux de la première. On avait inséré un pic à glace sous une de ses écailles. Il avait percé la peau coriace en dessous, mais rien ne coulait de la blessure, ni sang, ni aucun autre fluide. Sans doute cela revenait-il à planter un clou dans le sabot d'un cheval. Néanmoins, la fourberie et la cruauté d'une telle agression me révoltèrent. Le dragon était vivant, et quelqu'un avait creusé la glace comme un ver pour fouir dans sa chair et percer son cœur en profitant de son immobilité forcée. Je pus mesurer la solidité de son armure en extirpant le pic, car je dus y employer toute ma vigueur. Quant au coin, il me fallut le frapper de côté à coups de marteau pour l'ôter. À l'instant où il tomba, les écailles environnantes frémirent, ondulèrent, puis se refermèrent. Et pendant un moment, mon vif capta une brusque élévation de l'énergie vitale du dragon. Elle retomba tout aussi soudainement, et la masse écailleuse redevint aussi inerte qu'une muraille de métal faite de mains d'homme. J'hésitai, puis m'enhardi à passer la paume sur les plaques superposées. Je tentai de glisser un ongle sur le bord strié de l'une d'elles, mais en vain, tant elles s'imbriquaient étroitement. Elles étaient également froides, froides comme la glace qui emprisonnait Glacefeu. J'enroulais les outils malfaisants dans leur étui de cuir et les emportais. Je n'avais pas la place de me retourner, et je dus donc sortir à reculons. Quand je débouchais enfin dans le couloir, je transpirais à grosses gouttes et la puanteur reptilienne de la créature me mettait le cœur au bord des lèvres. Je trouvais le fou dormant à poings fermés, au plus près de la tête invisible du dragon, adossé à la paroi, les genoux repliés contre la poitrine, la tête posée sur eux. Ses cheveux d'or, défaits, voilaient son visage. L'épuisement l'avait emporté sur la curiosité. Je m'assis près de lui et me laissai aller contre le mur de glace. Il marmonna de façon inintelligible, puis s'agita dans son sommeil et s'appuya contre moi. Avec un soupir, je le laissai faire. Pourquoi les agresseurs du dragon n'avaient-ils pas foré plus près de la tête de la créature? Craignaient-ils que, même immobilisée, elle ne trouve un moyen de se défendre? Je levai les yeux vers le plafond. J'eus l'impression de plonger le regard dans une eau profonde d'un bleu infini. Quelque part là-haut, le prince creusait aux côtés de son clan de vifs. Quelle épaisseur de glace nous séparait-elle? Combien de temps le fou et moi devrions-nous croupir dans notre galerie avant d'entendre d'abord puis de voir la progression de leur travail? Une éternité sans doute. Je ne captais aucun bruit de pelle, aucun son de voix, et je ne distinguais nulle craquelure témoignant de leurs efforts. Ils auraient pu aussi bien se trouver à l'autre bout du monde. Je me serrais davantage contre le fou. Son corps aspirait la chaleur du mien, et j'étais en proie à une fatigue et une faim effrayante. Avec un des outils, je découpai un petit cube de glace dans la paroi et le suçai pour apaiser ma soif. Je rangeai le coffret lumineux des anciens dans le sac du fou, pris le morceau de pain qu'il m'avait laissé et le mangeai. Je le trouvais très bon et très insuffisant. Enfin, je posai la tête sur celle de mon compagnon et fermai les yeux. Je dus m'endormir. Mes propres tremblements me réveillèrent. J'avais la sensation que mes os essayaient de sauter de leurs articulations. J'étendis mes membres, puis me redressai péniblement, perclus de douleur. Le fou s'effondra lentement sur le côté, tandis que je me battais les flancs et tapais des pieds pour y ramener quelque sensibilité. Je m'agenouillai ensuite, près de mon compagnon, et le secouai maladroitement, les mains gourdes. Son teint m'horrifia, et je poussai un soupir de soulagement en l'entendant geindre doucement. « Lève-toi, » lui dis-je, à mi-voix, tout en me traitant de tous les noms. Quelle folie de dormir ainsi en plein milieu du couloir! Si quelqu'un était monté par l'escalier, nous aurions été pris sans pouvoir nous défendre. Allons, il faut nous remettre en route. Nous devons encore trouver une issue. Avec un gémissement plaintif, il se roula en boule. Je le secouai à nouveau, envahi à la fois par la colère et le désespoir. Ne baisse pas les bras, fou! Debout! Nous avons du chemin à parcourir.
Je t'en prie, fit-il dans un souffle. La mort est paisible. J'y glisse doucement.
Non, debout! Il ouvrit les yeux et dut lire dans mon expression que je ne renoncerais pas. Il se déplia, raide comme les marionnettes qu'il fabriquait autrefois, puis tendit ses mains devant lui et les contempla d'un air stupide.
Je ne les sens plus.
Lève-toi, fais quelques pas, ça te désengourdira. Il soupira.
Je faisais un si beau rêve. Nous mourions tous les deux ici et tout s'achevait. Nous avions accompli notre possible. Chacun s'accordait à le reconnaître et nul ne nous reprochait notre échec. On ne disait que du bien de nous.
Il me regarda soudain avec étonnement.
Comment as-tu réussi à te lever?
Je ne sais pas. Allons, debout. Je ne me sentais aucune patience.
J'essaye.
Tandis qu'il se redressait péniblement, je lui fis part de ce que j'avais découvert dans le tunnel, et il frémit quand je lui montrai les outils que j'avais rapportés. Il reprenait peu à peu ses sens. Il parvint enfin à se lever et se mit à marcher à pas traînants, sans force. Nous grelottions de froid tous les deux. Mais mes mains avaient recouvré quelques sensibilités et je frottais vigoureusement les siennes, malgré ses hoquets de douleur. Quand il put les ouvrir et les fermer à nouveau, je lui tendis un couteau. Il s'en saisit maladroitement et acquiesça à mon ordre de le tenir prêt à servir. Une fois en bas de l'escalier, poursuivis-je en négligeant allègrement les difficultés que risquait de présenter la descente, nous emprunterons le couloir central. C'est le seul espoir qui nous reste.
Fitz,
fit-il d'un ton grave, avant de se taire devant le regard que je lui lançais. J'avais interrompu sa tirade sur la futilité de nos efforts, je le savais. Longuement, je contemplais une dernière fois le dragon. Retombé dans l'assoupissement, il échappait à mon vif. « Pourquoi ?» lui demandai-je muettement. « Pourquoi te trouves-tu ici ? Et pourquoi Eliania veut-elle ta tête ?» Puis je me détournais, et le fou sur mes talons, je m'engageais dans l'interminable spirale des marches. Ce fut encore plus éprouvant qu'à l'aller. Nous souffrions toujours de la fatigue, de la faim et du froid. Je perdis le compte du nombre de fois où je tombais à la suite d'une glissade. Le fou, privé de sa grâce coutumière, me suivait à pas lourds et titubants. Je m'attendais sans cesse à me heurter à quelqu'un en route pour tourmenter le dragon, mais l'escalier demeurait bleu, froid, silencieux et totalement indifférent à notre martyre. Quand la soif devenait trop pressante, je faisais sauter des éclats de glace des parois et nous les sucions. Nous n'avions pas d'autre réconfort physique à notre portée. Enfin, nous arrivâmes en bas des degrés, et nous eûmes comme un choc en apercevant soudain le couloir au sortir de l'étroit colimaçon. Pantelant, nous nous avançâmes lentement pour jeter un coup d'œil prudent. Mon vif ne détectait aucune présence, mais la découverte des forgisés dans les cachots m'avait rappelé que mon don ne pouvait pas me prévenir de tous les dangers. Toutefois, le passage était désert et silencieux. « Allons-y, » chuchotai-je.
« Nous ne regagnerons pas l'extérieur par là. »
Le fou s'exprimait d'un ton posé. L'or de sa peau avait pris une teinte terne et malsaine, comme si la vie le quittait déjà, et sa voix n'avait plus de timbre.
« Cette galerie ne peut mener qu'à elle. Si nous l'empruntons, nous allons à notre mort. Mais nous n'avons guère le choix. » Naturellement, comme tu l'as souligné toi-même, il arrive qu'aucune solution ne soit bonne.
Je soupirai. Que proposes-tu dans ce cas? De redescendre à la grève, d'espérer que quelqu'un viendra en barque et que nous arriverons à le tuer avant qu'il ne nous tue? Ou de regagner les cellules et de nous livrer aux forgisés? Ou encore de rebrousser chemin jusqu'à la crevasse où nous sommes tombés et de rester dans le noir?
À mon avis,
fit-il d'un ton indécis, avant de s'interrompre et de se raidir. Je me tournai vivement pour voir ce qu'il désignait.
« L'homme noir !»
s'exclama-t-il, le souffle court. Il s'agissait bien du même personnage que Lourd et moi avions aperçu. Il se tenait dans une courbe du large couloir, les bras croisés sur la poitrine, comme s'il attendait que nous le remarquions, entièrement vêtu de noir, tunique, pantalon et bottes. Ses longs cheveux aussi sombres que ses yeux et son teint donnaient l'impression d'une créature toute de la même substance, y compris ses habits. Et ainsi que la première fois, il restait indécelable à mon vif. L'espace d'un instant, il nous regarda sans bouger, puis il pivota et s'éloigna à grands pas.
« Attendez !»
cria le fou, et il s'élança. Où puisa-t-il l'énergie et l'agilité nécessaires ? Je l'ignore. Je sais seulement que je le suivis péniblement, ébranlé jusqu'à la moelle, chaque fois que mes pieds engourdis heurtaient le sol glacé. L'homme noir nous jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et accéléra. Il paraissait courir sans effort. Pourtant, il ne nous distançait pas. Ses bottes n'éveillaient aucun écho. Le fou maintint une allure rapide pendant un moment, et je réussis à le suivre pesamment. Puis son dernier sursaut de vigueur s'épuisa, et il ralentit brusquement. Néanmoins, l'homme noir ne disparut pas. Il demeura à quelque distance devant nous, visible mais impossible à rattraper, comme un fantôme narquois. Malgré les profondes respirations que je prenais, je ne percevais aucune odeur émanant de lui. « Il n'existe pas, c'est de la magie, un tour de passe-passe » dis-je au fou d'une voix hachée, en m'efforçant de me convaincre moi-même.
« Non, il est important. »
Mon compagnon haletait, et sa course devenait chancelante. Il agrippa ma manche, prit appui sur moi un instant, puis fit un effort et repartit de plus belle.
Jamais je n'ai rencontré personne chez qui je sentais une telle importance. Je t'en prie, aide-moi, Fitz. Il faut le suivre. Il veut que nous le suivions. Ne le vois-tu pas ?
Je voyais seulement que nous ne parvenions pas à le rattraper. À bout de souffle, pris d'étourdissement, nous le poursuivions sans jamais nous rapprocher de lui, mais sans jamais le perdre de vue non plus. Les couloirs où il nous entraînait devenaient plus larges et plus décorés. Des plantes et des fleurs ornaient les linteaux gelés des portes que nous franchissions. L'homme noir ne regardait ni à droite ni à gauche, et ne nous en laissait pas le loisir. Nous passâmes devant un bassin de glace enguirlandé. Au milieu se dressait une fontaine sculptée d'où sortait la courbe pétrifiée d'un jet d'eau. Nous traversâmes les galeries élégantes et spacieuses d'un magnifique palais de glace, sans rencontrer âme qui vive, ni sentir le plus infime souffle de tiédeur. Nous n'avancions plus qu'au pas, titubant, épuisé, en accélérant sur quelques enjambées pour rester en vue de l'homme noir chaque fois qu'il tournait un angle. Nous n'avions plus de souffle pour discuter. D'ailleurs, je crois qu'une seule pensée occupait l'esprit du fou, le rattraper, et j'aurais perdu mon temps à lui en demander la raison. Même si j'avais pu formuler la question, il n'y aurait pas répondu. J'avais la bouche sèche, mon sang tonnait à mes oreilles, et la poursuite ne cessait pas. Notre mystérieux guide se déplaçait dans le dédale de couloirs apparemment sans hésitation. Où nous conduisait-il, et pourquoi ? Il nous mena dans un piège. Du moins, en eus-je le sentiment. Il tourna brusquement dans un passage latéral, et comme nous nous hâtions tant bien que mal pour ne pas le perdre de vue, et passions l'angle à notre tour, nous nous trouvâmes nez à nez avec 6 hommes d'armes. J'aperçus une dernière fois l'inconnu loin devant nous, à l'autre bout de la galerie. Il fit halte, et, alors que les soldats poussaient des exclamations de surprise et se jetaient sur nous, il disparut. Il était vain de chercher à nous défendre. Nous avions trop couru et trop peu mangé, bu et dormi. Je n'aurais pas pu repousser l'assaut d'un lapin en colère. Comme l'espadassin s'emparait du fou, toute vigueur parut le quitter. Son couteau tomba de ses doigts sans force, et sa mâchoire s'affaissa. Mais il n'eut pas un cri. Je plantai mon poinçon dans le ventre du premier qui se précipita sur moi, mais la lame s'enfonça dans sa tunique en peau de loup et n'alla pas plus loin. Il me jeta par terre. Mon crâne heurta le sol glacé dans un éclair de lumière blanche.